Bonjour, nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est une immense dépression qui est en train de se développer à l'échelle mondiale. Je ne vous parle pas d'enjeux économiques cette fois, mais de difficultés psychologiques. Nous sommes des dizaines de milliers à déprimer après avoir mis sur notre nez les lunettes qui nous révèlent l'état de la dégradation de notre planète. Dérèglement climatique et disparition massive de la biodiversité. Vous le savez, si vous écoutez régulièrement, c'est pas du vent, ça va mal et c'est juste l'avenir harmonieux de l'humanité qui est en jeu. Alors on peut faire l'autruche, mais à un moment ou à un autre, une actualité, un livre, la disparition d'un paysage ou d'une espèce vous sort la tête du sable. Et là, c'est le début du vertige. Mais n'éteignez pas tout de suite votre poste de radio parce que j'ai une bonne nouvelle. Cette prise de conscience est saine et elle nous pousse à l'action. Voilà donc une émission qui mérite toute votre attention.
C'est pas du vent sur RFI.
Salut beau-frère. Pour faire suite à nos discussions un peu houleuses pendant le réveillon, voici un petit cadeau dont je t'ai parlé.
Réveillon, voici ce petit cadeau dont je t'ai parlé. À travers ce livre et aussi cette série, tu comprendras pourquoi plus rien ne nous empêchera d'aller dans le mur. Courage mon petit Didier, en découvrant tout ceci, tu risques de traverser des états un peu difficiles. Non mais n'importe quoi. Ton frère et moi te souhaitons bon courage, signé les babacools de merde. Mais putain, ça va, ça fait 2000 ans qu'on nous fait chier avec la fin du monde.
Un extrait de la web-série Next, quand le chanteur Didier Super joue le blasé qui découvre le livre « Comment tout peut s'effondrer » de Raphaël Stevens et Pablo Servigne, publié en 2015 et qui a fait découvrir la notion d'effondrement de notre civilisation à plus de 80 000 lecteurs. Voilà comment Pablo Servigne résume la thèse de son livre.
On entend parler partout, mais les énergies fossiles viennent à manquer, provoquent un changement climatique, la généralisation des pollutions, les pertes de biodiversité, etc., etc. On en parle beaucoup. Ce qu'on a fait dans ce livre, c'est de montrer que toutes ces crises sont connectées dans une sorte d'effet domino général qu'on a appelé effondrement. Depuis 4-5 ans, on a épluché plus de 3000 articles scientifiques et on doit avoir près de 300 bouquins qui commencent à montrer que l'effondrement de notre civilisation est une évidence, et non seulement il est évident, il est imminent aussi. Donc toute l'idée du livre, c'est d'arriver à accepter ça et à vivre le mieux possible cette grande descente énergétique, on va dire, cet effondrement, pour préparer le monde d'après et les jeunes pousses qui arrivent.
Bonjour Laure Noilat.
Bonjour.
Vous allez nous remonter le moral, enfin j'espère, parce que vous venez de publier « Comment rester écolo sans devenir dépressif » chez Tana Édition, comme quoi c'est possible. Alors pour écrire ce livre, vous êtes partie de votre expérience personnelle de journaliste environnemental, 15 ans au quotidien français Libération, et au bout de 15 ans, vous avez craqué.
Oh non, bien avant, ma chère Anne-Cécile, j'ai craqué bien avant, je craquais même quand j'étais dedans. C'est-à-dire qu'en gros, ce que dit Pablo, ce qu'on vient d'entendre, c'est magnifique. Mais il y a une seule chose, c'est qu'on parle beaucoup de chiffres, de mathématiques, de réel. Mais en fait, il y a un moment donné où l'effondrement, où les questions environnementales font mal à l'âme. Et quand vous êtes à l'avant-pont des choses, et vous le savez très bien, Anne-Cécile, quand on est là à se taper de la mauvaise nouvelle, parce que l'écologie, c'est le royaume de la mauvaise nouvelle, ben en fait, à un moment donné, ça nous touche en tant qu'être humaine, en tant qu'être humain. Et donc, oui, on dégringole. Ce qui se passe, c'est que l'écologie fait mal. Et ça, personne ne nous l'a dit. C'est le royaume de la mauvaise nouvelle, notre truc. C'est ça, notre passion. c'est un truc qui fait mal. Et donc, du coup, à partir de là, oui, on sent.
Alors, la violence de la lecture des rapports, les reportages sur les lieux de catastrophes industrielles comme Tchernobyl, où vous êtes allé trois fois, Fukushima, tout ça, c'est vrai que ça marque. Bon, moi, je vais pas parler de moi dans cette émission, mais je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'ai eu ma dépression. C'est vrai que ça fait mal. Mais quand même, les catastrophes industrielles, c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué.
Et comment ? Enfin, je veux dire, comment ne pas être touché ? C'est-à-dire que on peut se dire qu'on se balade dans la vie en se disant que oui, ça existe, et en fait, on va pas être touché. Mais je crois que, notre problème à nous, les journalistes environnementaux, c'est que ce livre vient quand même de ça, de cette expérience de journaliste environnemental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous avez le matin au petit-déj, ce que vous avez 70 mails par jour dans les boîtes, vous êtes à Libé, donc tout le monde a un truc à dire. C'est pas ça, c'est que vous avez envie d'aller tout le temps recueillir l'info et pour alerter, bordel, pas pour faire peur genre comme ça, juste pour alerter, pour dire mais si on savait, si tout le monde savait, ce serait vachement bien. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai découvert. Même si les gens, ils savent, ils s'en foutent.
Votre ressenti, c'est que nous sommes, c'est ce que vous écrivez, hein, nous sommes des animaux pourris gâtés qui découvrent soudainement qu'ils sont en route vers l'abattoir.
Bah, écoutez, alors après, moi, j'ai beaucoup d'humour, donc c'est pour ça que j'enrobe les choses de formules comme ça. Mais en fait, si c'est pas les animaux vers l'abattoir, c'est quand même un truc très simple. C'est l'humain dans sa petite destinée personnelle qui se retrouve emmanché dans une grande destinée. Et on est les humains vivants sur une planète assez miraculeuse. Nous sommes le fruit d'un miracle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe tout simplement que on n'en a rien à foutre et qu'on avance quand même et qu'on veut nos vacances, nos bagnoles et notre steak. Donc, c'est ça qui pose un petit peu un problème.
Et du coup, dans votre introduction, vous dites que le Covid-19, c'est votre meilleur ami.
Ouais. Et je pense que le Covid-20 sera encore mon meilleur ami et le 21 aussi. Et tous ceux qui feront qu'apparemment, il y aura une prise de conscience. Alors, je mets de côté le fait que la réaction des gouvernements est assez spécifique sur le Covid, dont on peut considérer que c'est quand même une énorme grippe. Je sais, ça va faire mal d'entendre ça. Mais n'empêche que ce qui arrive, c'est quand même le temps de la déflagration. C'est quand même le temps des petits délitements. C'est quand même le temps où demain sera pire qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça ? Quand est-ce qu'on réfléchit à tout ça ? Et quand est-ce qu'on se pose la vraie question ? Alors, on peut se la poser d'un point de vue systémique. C'est-à-dire se dire, oui, ils n'ont pas fait ça, les gouvernements n'ont pas réagi comme ci, comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre impuissance, notre douleur, notre colère, même notre joie, notre enthousiasme ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On est tout impuissants. Mais n'empêche que oui, le Covid, en tout cas le confinement, le grand confinement, parce qu'il n'y en aura pas deux comme ça, ça a été un moment quand même assez précieux parce que j'ai vu des gens être à la fois confortés, activés et galvanisés.
Et puis c'est une vraie prise de conscience. C'est vrai que maintenant, on ne compte plus les tribunes sur le monde d'après, point d'interrogation.
Oh là là, tais-toi. Taisez-vous. Non, le monde d'après. Enfin, je veux dire, il y a un monde d'avant déjà. Enfin, je veux dire, on a fait la rupture, 2 mois d'arrêt et hop, il y a avant et après. Non, en fait, c'est une continuité. Et là, on est bien dans la merde. Je vous le dis clairement, on est bien dans la merde. Parce qu'on ne sait pas comment faire. Moi, j'ai vu beaucoup de tribunes d'après. Tout le monde a parlé du monde d'après, mais c'est pas des gens qui sont dans les cabinets ministériels et qui ont la capacité de changer les choses ou de faire bifurquer un petit peu les choses. Non, on est tous là à dire ce qu'on voudrait voir advenir et ce serait super. Vraiment, on est tous très nombreux. Mais en même temps, les gens qui sont aux manettes n'ont pas ni ce ressenti qu'il y a quelque chose à changer, ni les idées. Parce qu'il faut un peu d'idées. Et les idées en politique, on sait que c'est cher, c'est rare et précieux.
Alors, quels sont les ressorts psychologiques en jeu dans la dépression écolo et comment s'en sortir ? On en parle juste après une pause musicale. C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes avec la journaliste Laure Noalla aujourd'hui qui vient de publier Comment rester écolo sans devenir dépressif chez Tana Édition. Parce que la dépression guette chacun d'entre nous à partir du moment où nous acceptons de voir la réalité de la dégradation de l'état de notre planète. Alors nous sommes en ligne avec Charline Schmerber. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute et vous avez créé le site solastalgie.fr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qu'est la solastalgie ?
Alors, la solastalgie, c'est un néologisme qui a été créé par Glenn Albrecht, qui est un chercheur australien. C'est vraiment la détresse, la douleur psychologique que l'on ressent à voir l'habitat dans lequel on évolue se dégrader alors qu'on est dedans. À la différence de la nostalgie où vous pleurez, vous êtes triste d'un endroit que vous avez quitté, là, c'est vraiment tout un ensemble d'émotions comme de la tristesse, de la colère, de la peine que vous ressentez alors que vous constatez que votre lieu de réconfort est en train de se dégrader.
Et c'est différent de l'éco-anxiété ?
Oui, ce qui est différent entre ces deux termes, c'est l'expérience que l'on fait, c'est-à-dire dans la solastalgie, c'est une expérience rétrospective, c'est-à-dire que vous constatez que vous avez perdu quelque chose, que vous avez perdu l'environnement que vous connaissiez, alors que dans l'éco-anxiété, c'est plutôt une forme d'anxiété qui est prospective. C'est imaginer le futur, imaginer l'avenir qui vous génère toute une panoplie d'émotions.
Alors, vous avez beaucoup de patients. Quels sont les symptômes ?
C'est des personnes qui arrivent dans une forme de détresse, plutôt en burn-out écologique. En fait, ils sont très fatigués, dans beaucoup de tristesse. Ou alors, ça peut être des personnes qui arrivent dans un état de colère, d'urgence. Ça, c'est plutôt des gens qui arrivent par le biais de la collapsologie, des personnes qui ont réalisé qu'il y avait un effondrement en cours et qui cherchent des solutions, qui sont plutôt dans un phénomène d'essayer de trouver des réponses à un état dégradé du monde et qui viennent consulter parce qu'ils ne trouvent pas de solution, en fait. Et j'ai un autre profil de patient, ça peut être aussi des personnes qui ont toujours eu conscience que le monde dans lequel on vit marchait un peu sur la tête et n'était pas très cohérent, et c'est des gens qui n'ont jamais su mettre un mot sur ce qu'ils ressentaient, et qui arrivent en me disant « bon, ben voilà, je souffre aujourd'hui, je comprends que je souffre d'éco-anxiété ou de solastalgie », qui était quelque chose qui avait toujours été un peu latent.
Alors, vous avez fait une enquête sur votre site solastalgie.fr, justement, pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes des gens ou leur état d'esprit, et il en est ressorti des points clés qui sont un peu communs à tous ces éco-anxieux. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ?
Oui, alors j'en ai ressorti différents enseignements. C'est que ce qu'ont partagé les participants, c'est que c'est vraiment une anxiété qui est systémique. C'est-à-dire qu'elle est liée à tout un ensemble de facteurs qui vont au-delà juste des simples phénomènes écologiques, en fait. Les personnes qui ont répondu partagent une anxiété qui est liée à l'ensemble du système et du fonctionnement du système. Ça part de problématiques très individuelles jusqu'à la sphère géopolitique, en passant par toute une dimension sociétale, écologique, bien évidemment, et économique. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui va générer une anxiété chez les individus. Ce qui a été très intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste de l'éco-anxiété. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à utiliser ce terme-là. Les personnes ont partagé des souvenirs, 175 termes différents pour, je les avais interrogés sur ressentez-vous d'autres émotions que de l'anxiété, et 175 termes ont été utilisés pour qualifier les ressentis. Donc ça va bien au-delà de ça. Ils ont mentionné de l'impuissance, de la tristesse, de la colère, de la peine, du désespoir, de l'espoir aussi. Toute une panoplie d'émotions qui va donc bien au-delà de la simple anxiété.
Il y a un impact, et ça c'est ressorti assez fort, sur le fait de se mettre en mouvement, d'être en capacité d'agir. Certains se retrouvent presque paralysés.
Oui, il y a trois types de profils en fait. C'est-à-dire que par rapport à cette éco-anxiété, elle va générer soit une forme d'éco-paralysie. Ça correspondait à peu près à 30% des gens qui avaient répondu à ce sondage. Donc ces personnes ne sont plus en capacité de bouger, d'avoir envie de faire des choses. C'est des gens qui n'ont plus envie de se mettre en mouvement, qui peuvent tomber dans des trous vraiment dépressifs avec idées suicidaires. Ça, c'est 30%. Après, il va y avoir 10% des gens qui sont dans une forme d'oscillation entre envie d'agir et après vraiment forme de découragement et plus envie de rien faire. Et après, les 60% restants, c'est des gens qui vont traverser l'anxiété et à qui ça va donner envie d'agir et qui vont se mettre à participer à une vie associative, qui vont rejoindre des réseaux comme Extinction Rebellion, qui vont vraiment avoir envie de se mettre en mouvement, de changer éventuellement d'habitat, de quitter la ville pour aller à la campagne, à qui ça va donner une impulsion en fait. Et cette impulsion-là, elle va être quand même guidée par une recherche de sens.
En gros, c'est une crise existentielle.
C'est tout à fait ça. Ça interroge vraiment la question de quel est le sens aujourd'hui d'être un être humain sur cette terre. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui fait sens pour soi aujourd'hui, qui est-ce qu'on a envie d'être dans le monde actuel en fait.
Alors qu'est-ce que vous préconisez ? On ne va pas faire une consultation à distance, mais quelles sont vos recommandations ?
Je pense que ce qui est déjà très important, c'est pouvoir prendre soin de soi dans tout un processus de deuil qu'on traverse, qui nécessite de passer par différentes phases, le choc, la sidération, le déni, la tristesse, la colère. Et je pense que c'est très important de pouvoir déjà accueillir les différentes émotions et de pouvoir en parler. C'est important de ne pas rester seul avec tout ce qu'on vit et de pouvoir partager. Pour moi, cette dimension émotionnelle, les émotions, elles ont vraiment vocation à être partagées. Libre à chacun de faire dans la sphère qui lui est juste. Hein. Ça peut être avec vos amis, avec votre conjoint, avec votre famille, avec un thérapeute, peu importe, avec la personne qui va être capable de vous entendre et vraiment de s'autoriser à pouvoir traverser tout ça.
Merci Charline Schmerber.
Merci à vous.
Laure Noilat, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Charline Schmerber ? C'est vrai que, comme vous le dites dans votre livre, en fait, faut faire son deuil. Hein.
Ben oui, en fait, faut pas se mentir, l'écologie, c'est quand même le renoncement. Et en gros, autant dans le XXe siècle, on nous a dit « yes, we can !» Yes, just do it. Mais en fait, c'est ce deuil-là qu'il faut qu'on fasse tout doucement, tout simplement. Il n'y a plus de yes, we can. C'est we cannot anymore. And just do it, non. Non, just do it, no. Enfin, je ne sais pas comment on dirait, mais en gros, on arrête de faire n'importe quoi. Et en fait, c'est ça, ce deuil, il est très simple. On pense que le deuil est une chose qui nous touche par rapport aux êtres chers qu'on perdrait. Moi, je perds mes rêves d'enfant. J'ai été nourrie à du possible infernal. Je pouvais aller voyager n'importe où, je pouvais découvrir le monde, je pouvais manger autant de steaks que je voulais. Il n'y avait pas de questions qui se posaient. Maintenant, ces questions-là se posent. Et si on est écolo, eh ben, à un moment donné, on renonce. Et le renoncement, c'est un truc qui n'est dans le discours politique jamais là. Dans le discours médiatique, jamais là, et dans le discours même de nos propres rêves et de nos, enfin, même quand on a des enfants, on leur dit pas non. Enfin, on a un mal fou à dire non, mais il faut dire non parce que non, c'est oui en fait. Voilà. Et donc oui. Et en plus, je réagis à ça parce que elle dit un truc très vrai. C'est-à-dire que l'éco-anxiété, finalement, c'est le syndrome du stress pré-traumatique. La chose n'arrive pas auprès de vous, mais n'empêche qu'elle existe. Et vous la pensez. parce que vous avez toutes ces informations qui arrivent dans votre figure, vous prenez des espèces de... Je vous répète que quand même l'écologie, c'est le royaume de la mauvaise nouvelle. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'envisage pas le futur si on n'est pas très, très présent là où on est.
Alors, on va venir tout à l'heure sur comment on s'en sort. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de plus en plus de solastalgiques et d'éco-anxieux, notamment parce que la dégradation de l'environnement fait désormais régulièrement partie de l'actualité. D'où l'idée de créer des lieux d'échange. Alors, bonjour Clément Montfort.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous avez créé la web-série Next, qui donne la parole à différents chercheurs qui ont réfléchi à l'effondrement possible de notre civilisation. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette série ?
En fait, c'était en 2016, un an après la parution du bouquin de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, « Comment tout peut s'effondrer ». De mon côté, ça faisait déjà quelques années que je travaillais sur des documentaires sur les questions écologiques. Mais en lisant ce bouquin, j'ai moi-même vécu une espèce de... Comment dire, une nouvelle prise de conscience écologique et un espèce d'effondrement intérieur quand j'ai pris conscience de cet aspect systémique et global et de l'imminence surtout de la situation écologique et des risques d'effondrement. Puis en fait, en observant que cet effet-là se produisait aussi chez d'autres lecteurs, j'ai commencé à voir se dessiner un petit peu comme un phénomène social, un phénomène de société qui était différent de n'importe quel autre livre d'écologie, notamment parce que ce bouquin abordait les questions aussi d'émotions. Il ne parle pas que de chiffres, de faits, de désastres, il parle aussi du ressenti intérieur. Et puis en allant à des conférences, en regardant le public, ses réactions, la façon dont il voulait discuter avec Pablo, qui a un vrai charisme de, non seulement de scientifique mais de conteur, je me suis dit que là, il se passait quelque chose qui était un petit peu télégénique en tout cas, qui pouvait nous faire sortir des chiffres pour aller dans l'humain. Finalement, autour de cette question, comment est-ce qu'on vit avec l'annonce d'un effondrement futur et présent aussi, parce que sur le plan des écosystèmes, c'est déjà en cours.
Alors, vous avez fait de nombreuses vidéos sur le sujet. J'invite les auditeurs à aller voir votre web-série sur Internet. Et l'une des vidéos qui a reçu le plus de succès, c'est celle de Arthur Keller, qui est consultant sur les limites et la vulnérabilité des systèmes complexes. C'est en tout cas comme ça qu'il se présente. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Soit on se désintéresse totalement de la question écologique et de la question des limites de la biocapacité terrestre et tout l'enjeu. Toutes les politiques se basent sur croissance économique, croissance économique, croissance économique. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'effectivement, rapidement, on dégrade la biocapacité de la planète. Comme dit Dominique Bourg, vous pouvez ne pas vous intéresser à l'écologie, mais l'écologie, elle s'intéresse à vous. Et effectivement, la soutenabilité du monde dans lequel on vit est un sujet important, parce que si ce n'est pas soutenable, ça veut dire que ben, ça s'effondre, ça se casse la gueule. La soutenabilité n'est pas une question d'écologiste. Une question d'écologie, mais pas d'écologiste. Ça concerne tout le monde. À partir du moment où on alimente l'obsession de faire croître l'économie sans se soucier de la biocapacité, celle-ci se dérègle et donc décroît rapidement. On est exactement ici à ce tipping point, là, à ce seuil de bascule.
Alors, ce n'est pas ce genre d'interview qui vous ont aidé à penser votre propre effondrement intérieur, Clément Montfort, j'imagine ?
D'ailleurs, je salue le travail d'Arthur Keller. Il fait un boulot de pédagogie qui est assez impressionnant. Mais alors moi, mon effondrement psychologique face à cet effondrement écologique, je l'ai vécu par phase. Mais disons que c'était autour des années 2016 à la lecture du bouquin et 2017. Puis ensuite, j'ai commencé à me relever. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette série, en fait. C'est parce que je me suis rendu compte, j'avais l'intuition que finalement, en écoutant d'autres personnes parler de leur périple émotionnel à travers toutes ces nouvelles, ça pouvait nous aider à nous relever. Et puis cette intuition, elle s'est confirmée quand j'ai commencé à voir les retours et les commentaires des spectateurs qui me remerciaient finalement de mettre en ligne ces témoignages, parce que ça les aidait, par un effet un petit peu miroir finalement, d'empathie, ça les aidait eux-mêmes à ressortir de ce trou noir de l'angoisse, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas en parler avec leur famille, avec leurs proches, avec leurs compagnons, leurs compagnes, au boulot aussi, aussi rarement. Et ça crée un isolement et il y a un besoin qui est énorme de partager ce qu'on ressent et d'entendre les autres partager ça pour se relever.
D'où l'idée d'aller plus loin, ou en tout cas de compléter votre web-série à travers un répondeur que vous avez lancé tout début mai. Alors je vous propose d'écouter un message laissé sur ce répondeur et ensuite on en parle.
Bonjour aux répondeurs de Next et merci pour cette initiative. Alors moi, je voulais simplement vous partager la conclusion de l'ouvrage d'Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. Voilà, c'est un ami qui m'a fait découvrir ce tout petit extrait et je trouve qu'il est très à propos et je me fais une joie de vous le partager. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. À elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l'univers. Il est une machine à faire des dieux. Voilà, les réflexions sont ouvertes. Merci à vous et bon confinement.
Voilà, donc désormais, l'humanité gémit sur votre répondeur. Clément Montfort, expliquez-nous le principe.
Bah, le principe, il est assez simple. Et pour être honnête, j'ai vraiment rien inventé. C'est-à-dire que j'ai repris le principe assez simple de nos émissions de radio préférées. Un numéro de téléphone qu'on peut appeler n'importe quand, gratuitement évidemment, pour laisser un message de 1 minute 45 maximum autour des questions voilà, qui nous rassemblent dans la série Next, d'effondrement, d'écologie, d'éco-anxiété. Et ce qui est assez chouette, en fait, à découvrir, moi, je savais pas quand j'ai lancé ça comment ça réagirait, mais j'ai été très agréablement surpris, en fait, de voir la poésie, en fait, naturelle des gens. Alors, il y a beaucoup de messages qui sont des messages, finalement, on va dire, beaucoup plus rationnels et intellectuels, où les gens apportent des idées, et c'est une des choses que je les invite à faire. Donc, on réfléchit ensemble. Mais il y a aussi beaucoup de messages qui apportent plus de tendresse, de poésie, un regard un peu plus décalé, distancié sur le monde. Il y a même un jeune homme qui a récité un slam d'Abdel Malik, qui est juste splendide sur notre condition humaine sur cette terre en péril. Donc en fait, le répondeur, je l'avais espéré comme une espèce de mosaïque où chacun peut venir déposer ce qu'il est ou son humeur du moment. Et c'est comme ça, en tout cas, que les deux premiers épisodes se sont révélés être, parce que je m'amuse à écouter les messages qui arrivent, parce qu'à chaque fois, ils sont vraiment différents.
Et ces messages, vous les compilez sous forme de podcast. On peut les écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et on va peut-être donner le numéro de téléphone.
Oui, bien sûr. Alors le numéro, j'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé. Le numéro du répondeur Collapso, c'est le 01 86 76 13 29.
Merci Clément Montfort.
Merci Anne-Cécile. À bientôt.
Laure Noyla, Clément Montfort a lancé son répondeur début mai, mais en fait, ça fait un moment que sur les réseaux sociaux, il y a des forums de discussion entre éco-anxieux. Il y a besoin de partager, d'échanger. C'est assez génial, cette idée de répondeur, en fait.
Bah, c'était génial. Et puis, je fais un gros big up à Clément Montfort, là, maintenant, en direct, pour lui dire tout mon cœur avec toi et toute mon énergie avec toi. Parce qu'effectivement, c'est difficile à la fois de traverser ça et à la fois de recueillir tout ce qui va arriver, parce que ce qui arrive, c'est le genre de tsunami de gens qui ont des choses à dire. Oui, il y a de la poésie, mais il y a aussi de la douleur, quoi. Et donc oui, bravo à Clément. Par ailleurs, oui, nous sommes exactement tous dans le même bateau, on est en train de s'en rendre compte, et ce qui nous manquait finalement, c'était la parole, le fait de pouvoir nous retrouver quelque part. Et il y a plein d'endroits sur Internet où on peut se retrouver, on peut faire des, ben, je sais pas, on peut faire des apérocalypses avec n'importe qui. Enfin, je veux dire, maintenant, si vous êtes sur Facebook, vous êtes à deux doigts de milliards de personnes autour de vous. Donc, se rassembler, c'est évidemment la chose numéro un à faire.
Les apérocalypses. On peut aller, par exemple, sur le groupe des pochetrons de l'apocalypse, dont vous faites partie, Laure. Mais il y a aussi Adrastia, Transition 2030.
Il y a énormément d'endroits où on peut déverser à la fois son ressenti et son envie de sublimation. Parce que ce n'est pas juste un endroit où on dépose notre douleur. C'est aussi des endroits où on pose qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je pense, est-ce que je fais de la poésie ou est-ce que demain je fais quelque chose. Et peu importe, ça ne se compare pas, ça s'additionne. On est en train de tous s'additionner.
Mais comme l'indique le titre de votre livre, Laure, on peut être écolo sans finir dépressif. Comment s'y prendre? On en parle juste après une pause musicale. No one sleeping.
In the country, the
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes avec la journaliste Laure Noilat aujourd'hui qui vient de publier « Comment rester écolo sans finir dépressif » chez Tana Édition. Tout le monde n'a pas ce problème car la société de consommation qui nous promet ce que vous appelez Laure les 3T, tout le temps, tout de suite, a encore de nombreux adeptes. Il suffit de voir les queues devant les magasins lors du déconfinement. Alors qu'est-ce qui résiste? Pourquoi est-ce que notre cerveau a du mal à anticiper les conséquences du dérèglement climatique et de la disparition de la biodiversité? Eh bien, c'est à cause de notre striatome. Écoutez les explications de Sébastien Boller, directeur de la revue Cerveau et Psycho et auteur de Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher? C'est publié chez Robert Laffont.
Pourquoi est-ce que, sachant tous que nous allons être confrontés à des enjeux climatiques et des catastrophes véritablement gigantesques, on va être confronté à un défi pratiquement insurmontable dans 20 ou 30 ans par rapport au climat. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à changer de comportement? Pourquoi est-ce que peut-être certains arrivent à changer de comportement, mais à l'échelle mondiale, on est toujours dans une logique d'accroissement de la consommation et des émissions de gaz à effet de serre? Quand on se penche sur le fonctionnement du cerveau, on peut commencer à comprendre ce qui nous pose le plus de problèmes. C'est notre fonctionnement individuel en chacun de nous qui pose problème. Parce que notre cerveau n'est pas véritablement programmé pour avoir une attitude saine vis-à-vis de l'environnement. Il répond à 5 besoins qui lui sont dictés par un noyau qui s'appelle le striatum au centre de notre cerveau, qui fonctionne avec de la dopamine et qui nous donne du plaisir à chaque fois qu'on fait quoi? Qu'on mange, qu'on a des rapports sexuels, qu'on domine nos semblables, qu'on se hisse dans la hiérarchie sociale plus haut que nos semblables, qu'on capte le plus d'informations possibles autour de nous et qu'on fait le moins d'efforts possibles. Voilà. Ça, ce sont les 5 grands objectifs de notre cerveau, on va dire reptilien, de cette partie très profondément enfouie dans notre cerveau qu'on appelle le striatum. Et quand on regarde autour de nous, on voit que ça explique énormément de problèmes. C'est-à-dire que l'humanité aujourd'hui est dans une spirale d'obésité dont elle n'arrive pas à sortir. On meurt plus aujourd'hui des conséquences de l'hyperalimentation que des conséquences de la faim. Ça a été chiffré par l'OMS, c'est la première fois que ça arrive. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On consomme de plus en plus, en fait, de vidéos pornographiques sur Internet. Grâce au smartphone qu'on a tous dans notre poche, aujourd'hui, c'est 136 milliards de vidéos pornographiques qui sont visionnées chaque année par l'humanité. Et ça ne cesse d'augmenter. Troisièmement, je vous parlais du besoin de statut social. Aujourd'hui, ben, vous prenez Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens qui font quoi? Ben, qui cherchent finalement à avoir plus de clics que le voisin. Ça répond à un besoin finalement de se sentir valorisé par rapport aux autres. C'est aussi le fait qu'on va chercher à se sentir valorisé en achetant des marques, en ayant le dernier modèle suréquipé, une belle berline qui nous fait nous sentir plus important que les autres. Ça, c'est vraiment le statut social comme un renforceur essentiel de notre cerveau profond. Et puis enfin, c'est le besoin d'information. Notre cerveau à dopamine, là, qui nous donne du plaisir dans l'instant présent, il veut toujours plus d'informations. Et ça, il la trouve partout aujourd'hui. C'est les chaînes d'information continue, c'est les alertes email, c'est les textos, le fait qu'on est toujours en train de pianoter, on cherche toujours à nourrir notre cerveau d'informations et il n'y a pas de frein pour ça. Et puis enfin, c'est le fait qu'on a besoin de confort. Notre cerveau est programmé pour faire le moins d'efforts possible, pour le plus de gratification possible. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir systématiquement besoin de s'entourer de toutes sortes de facilités, de domotique, de connectivité, d'ameublement luxueux, et que pour ça on va chercher toujours à renouveler comme ça notre patrimoine sans frein possible. Alors le problème, c'est que ces neurones à dopamine sont pas programmés pour s'arrêter, ils en veulent toujours plus. On le voit aujourd'hui quand on enregistre l'activité profonde de notre cerveau, on s'habitue à ce qu'on a et on a toujours besoin d'une dose supplémentaire. Deuxième problème de cette partie de notre cerveau, c'est qu'elle n'a pas la notion du temps. C'est-à-dire que quand on montre des objectifs lointains, catastrophiques, il ne prend pas en considération. Cette dopamine au cœur de notre cerveau ne prend en compte que l'instant présent. Donc il faut vraiment savoir tout ça pour commencer à se dire comment on peut agir là-dessus. Il y a des moyens, la pleine conscience, voilà, changer de normes sociales. Tout ça pour essayer de modifier le fonctionnement de cette partie du cerveau qui nous joue de bien vilains tours.
Laure Noilat, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Sébastien Boller, sachant que notre cerveau, la bonne nouvelle, c'est que c'est un muscle, et c'est un muscle qui se travaille?
Ouais, enfin, ça serait si on travaillait tous nos cerveaux. En tout cas, moi, ce qui m'énerve là-dedans, mais c'est vrai, je veux dire, c'est complètement, on ne peut pas aller contre. En revanche, laisser le pouvoir à mon striatum. Franchement, en 2020, après 2500 ans d'histoire, de philosophie, de pensée, des idées, de capacité à faire, à produire, ça m'emmerde. que le striatum est le dernier mot, ça m'emmerde. Donc, du coup, ce que fait Sébastien Boller, c'est très important. D'ailleurs, je le cite pas mal dans le bouquin. C'est-à-dire qu'en gros, au moins savoir ce qui nous arrive, au moins savoir de quoi il retourne, au moins savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose nous dépasse, plus en nous. Alors qu'on est très raisonné, qu'on a très envie de faire des choses, mais quand même, on veut un like sur Facebook et ça nous fait bien du plaisir. Eh bien, je suis désolée, c'est comme ça qu'on va aller au bout du bout. Et c'est ça qui fait que, putain, son bouquin, il est génial, mais en même temps, son bouquin, il y a 40 ou 50 pages à la fin seulement sur les solutions. Il n'y a donc pas de solution à part le fait d'être plus digne que son striatum, de l'emporter, voilà, là-dessus. Et il faut vraiment qu'on soit, tous les gens raisonnables ou qui ont pensé la chose doivent défoncer leur striatum.
Alors justement, alors Noa, là, je trouve que votre livre complète le sien finalement, parce que vous mettez beaucoup d'énergie avec des solutions à nous expliquer qu'on peut rire, qu'on peut méditer, qu'on peut relire l'empereur philosophe stoïcien Marc Aurèle qui, dès le deuxième siècle de notre ère, nous invite à remercier la vie. En fait, il y a plein de solutions dans votre livre.
Bien sûr qu'il y a plein de solutions, mais il y a deux questions à se poser maintenant. Enfin, je ne sais pas vous, combien de temps il vous reste? Moi non plus, je ne sais pas. Mais n'empêche que dans ma destinée personnelle, j'ai envie de me poser deux questions. Qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que je peux faire? Et à partir de là, je ne sais pas, les matins se réveillent avec un peu de la joie, de l'envie d'embrasser l'instant présent. C'est tout bête, embrasser l'instant présent. C'est vraiment même plus que bête. Moi, j'ai très longtemps pensé que c'était ultra neuneux, mais c'est plus que ultra neuneux, c'est une connexion à la vie, c'est s'arrêter, je sais pas, respirer, regarder le soleil se lever. Et qui je peux être et qu'est-ce que je peux faire sont deux questions avec lesquelles on doit se réveiller tous les matins.
Et alors, pour nous aider un peu, je vous propose d'écouter les conseils d'un sage avisé. Il s'agit du moine bouddhiste Mathieu Ricard, qui nous invite dans son dernier livre à nous émerveiller pour préserver la partie sauvage du monde, une leçon d'humilité, de bienveillance et d'altérité.
Donc, si on s'émerveille devant la nature, ça peut être un immense paysage, ça peut être une ligne de fourmis qui passe dans une mousse. L'émerveillement, forcément, mène au respect. Si vous êtes émerveillé par quelque chose, vous n'allez pas lui marcher dessus, le détruire, le saccager. Donc, l'émerveillement mène au respect. Le respect mène au désir de prendre soin d'eux. Si vous respectez quelque chose, vous allez faire en sorte de le préserver, faire en sorte qu'il, justement, le protéger. Et ce désir de prendre soin mène à l'action. Donc, c'est une manière, disons, constructive de s'engager pour la protection de la biodiversité, des paysages naturels, de la part sauvage du monde. J'étais en Islande récemment, le plus grand volcan d'Europe, le plus grand glacier d'Europe qui risque de disparaître d'ici 2050. Donc si on est émerveillé par la beauté de ce glacier, eh bien on dit que c'est quand même, essayons de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas, que cette espèce d'oiseau rare ne sent pas l'œil. Et au Bhoutan, il y a des hérons pourprés à col blanc, il en reste 50 individus dans le monde, en Birmanie, au Bhoutan et un peu au Népal. 50. Là, évidemment, si on n'en prend pas soin, c'est probablement déjà trop tard. Donc voilà, donc l'émerveillement, c'est quelque chose qui est magnifique. Moi, j'ai essayé de susciter ça à mon humble niveau par les photographies, par un ouvrage que j'ai fait de par le monde, de l'Himalaya à l'Islande, en passant par la Patagonie et le Yukon. Donc voilà, une goutte d'eau dans l'océan de ce combat pour le grand défi du 21e siècle, qui est évidemment la cause de l'environnement et du réchauffement climatique.
Développer notre intelligence contemplative, voilà un remède à la déprime, leur noix là, non?
Ah non, mais attendez, moi ce que je viens d'entendre, d'abord à la fois ça me heurte et à la fois ça me met en joie. Ça me heurte parce que Yukon, machin, bidule, ça te fait un bilan carbone de la contemplation qui est absolument énorme. Et à la fois ça me met en joie parce que moi, à mon petit niveau, j'ai un verger. Il ne coûte rien ce verger. Je l'ai sauvé du rien, le verger. Il y a 15 arbres. Il y a des cerisiers, des pruniers, un pêcher, un seul pêcher. Et puis, des pommiers, mais en veux-tu, en voilà. Et donc, depuis quelques mois, je regarde le bourgeon, la fleur, l'abeille qui vient, le fruit qui déboule, le fruit vert qui passe au rosé et au rouge. Et en plus de ça, à la fin, il est tellement mûr qu'on n'a pas eu le temps de le ramasser que les oiseaux viennent se prendre tout de ce qu'il y avait à prendre. Franchement, c'est zéro carbone, zéro CO2. La beauté, elle est devant nous. Elle est partout. Si vous n'avez pas un verger, vous avez bien une fleur, vous avez bien un truc, vous avez bien un enfant, finalement, c'est ça aussi. Et donc, émerveillons-nous. Mais alors, mais à toujours, mais sans bilan carbone maximal. Quoi.
Et puis, il y a aussi l'enjeu du récit. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus. Nancy Houston, Noah Yuval, l'auteur de Sapiens, et le cinéaste et écrivain Cyril Dion, dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Alors du coup, je vous propose de l'écouter.
Ce capitalisme-là, qui continue à être extraordinairement dominant dans la société, comment est-ce qu'il opère sa domination, notamment par une forme d'asservissement au travail et à l'argent, à la nécessité d'avoir un revenu. Et c'est quelque chose qu'on comprend assez rapidement quand on va à l'école, qu'on nous explique assez jeune. Il va falloir bien travailler et il va falloir que pendant le temps que tu es à l'école, tu t'adaptes, tu comprennes les codes de cette société pour ensuite pouvoir y rentrer et en devenir un rouage. Et ça, c'est en train de s'effriter. C'est-à-dire que de plus en plus, un certain nombre de jeunes gens se disent « mais moi, j'ai pas envie de faire ça ». Et en fait, aujourd'hui, on est coincé dans une espèce de système où, comme le récit dominant, c'est « cette civilisation est la meilleure », à partir du moment où on dit « ah ben non, mais moi, j'ai pas envie de devenir un esclave de la civilisation moderne », on dit « mais dis donc, mais c'est un truc de privilégié de dire ça, là, t'as déjà de la chance, t'as un boulot, t'as de l'argent, tu peux partir en vacances ». Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre de jeunes n'ont absolument pas le cran de se dire bah, « je vais faire un métier qui me plaît et qui me passionne » parce que bah, ça va, et oh, il n'y a pas du boulot pour tout le monde, donc tu vas pas commencer à choisir.
Et donc voilà, en fait c'est ça le gros enjeu, c'est de remettre en cause, comme vous l'écrivez, la nécessité de travailler pour gagner de l'argent afin de pouvoir consommer ce que la pub nous conditionne à désirer.
Absolument, il me semblerait que ce serait génial qu'on invente un monde où la publicité serait supprimée. Imaginez un monde, une espèce de dystopie positive, une uchronie, où la question du désir fabriqué par des codes, comme la pub nous le fait savoir, bah, disparaîtrait. Ce serait génial. Et donc, il a raison, Cyril, de parler des nouvelles générations, parce que, oui, dans mon petit bled où je suis, je filme un peu des personnes qui ont 14 ans et à l'âge du diabolomante, vous et moi, Anne-Cécile, on ne se posait pas la question de savoir si on voulait avoir un enfant, les ours polaires allaient mourir, et en plus, les dauphins auraient plein, et les tortues, vas-y, que je t'en passe. Plein de plastique dans la gueule. On ne pensait pas ça. On pensait que là où on avait grandi, ce serait le monde d'après. Et puis, en fait, la génération qui arrive, elle sait très bien que tout s'abîme. Elle a envie de tout et elle sait aussi très bien. Et elle est dans son backup système, là, quelque part en toile de fond, le fait que ça ne sera pas du tout exactement comme ils ont pensé. Et ça... il faut les accompagner, il faut qu'on les aime encore plus, et puis il faut leur donner les clés, quoi. C'est-à-dire les marchepieds qu'on est, vous, Cyril, moi, on est des marchepieds, on n'arrête pas de leur dire « putain, mais allez-y, quoi !» Et puis après, advienne que pourra. Et pas après moi le déluge, mais advienne que pourra. C'est-à-dire que on va tout faire pour. C'est différent de « après moi le déluge ».
Et donc, on peut agir à plusieurs, on peut s'engager. On le voit de plus en plus dans des mouvements, par exemple, comme Extinction Rebellion. On peut essayer d'avoir un maximum, vous l'avez dit, un contact avec la nature. Tout ça, évidemment, sont des clés pour créer peut-être d'autres citoyens plus en lien avec l'effondrement de notre civilisation qui approche.
Il y a ça, il y a tellement de choses. En fait, ce qui est important, il me semble, encore une fois, c'est que c'est hyper important qu'on retrouve notre place d'humilité, de simplicité. Nous dépendons d'énormément de choses. Nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne du vivant, mais absolument gigantesque. Et nos désirs prométhéens, nos désirs de consommation, de confort par l'argent ou le matériel, sont des désirs vains, évidemment. Mais le temps qu'on s'y met, le temps qu'on se reconnecte à la vie, putain, mais ça vole en éclats tout ça. Moi, je sais pas, vous êtes d'accord ou pas ?
Moi, je pense qu'on n'a pas le temps de trop se prendre la tête et qu'il faut agir vite. Voilà.
Yes, ben, je suis d'accord avec vous. Ça pétarade un peu les idées, quoi. Enfin, je veux dire, là, on n'a plus le temps est venu, nous dit-on. Mais non, il est déjà là depuis très longtemps. Depuis 40 ans, on sait à peu près l'essentiel. Donc maintenant, on prend... surtout, on sort, on fait un pas de côté. Hein. Parce que si on attend des grands, des gouvernants, des puissants, ça ne vient pas. Ça ne vient définitivement pas. Donc, à nous de faire, là où on est, avec notre petitesse et notre grandeur. C'est exactement ça. Ouais, il faut qu'on y aille. À fond les ballons.
Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on y aille. Et vous et moi, on fait ce qu'on peut pour... sensibiliser en tout cas. Merci beaucoup Laure Noilade d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Comment rester écolo sans finir dépressif. C'est publié chez Tana Édition. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos nombreux messages. Vous pouvez continuer à échanger avec nous sur les réseaux sociaux et vous retrouverez en bonus des vidéos de nos invités. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.